C'est quoi ces beaux sourires-là?
Denis Gravel?
Hey!
C'est qui se passe?
On rit.
On parlait des filles qui sont des personnalités médias qui, parfois, à 2h ou 3h du matin, peuvent recevoir des messages.
Oui!
Puis elle disait, on parlait d'une personne X qui a la réputation d'en envoyer beaucoup. Et Pascal disait, ben j'en reçois moi ces temps-ci. Ben j'ai dit, tu serais peut-être dû pour changer ta photo de profil.
Il m'a dit, t'es dû pour une nouvelle photo.
Il y a des gars qui vous envoient des messages tard le soir.
Je pense honnêtement que c'est dans les deux cas.
Des likes. Tu sais, mettons une fille qui se fait liker 32 photos du même gars à 2h30 du matin.
Incluant ta photo de 2011.
Ouais.
C'est ça le pire. C'est ceux qui s'en vont tellement loin. Là. Ouais. C'est ouf.
Ouais, tu sens que ça a été une recherche. Ouais. Une recherche nocturne.
Il y en a qui sont wise. Je me souviens pas qui m'avait dit ça, mais c'est probablement qu'une fille d'ici. Il y a des gars qui, justement, vont sur des photos genre 2011. Mm-hmm. Puis après ça, utilisent cette erreur-là pour dire « Hey, je m'excuse, j'ai accroché ta photo par erreur. »
Mais là, ça dépend, t'es où, là, je veux dire.
Puis là, ben, la personne dit « Ah, mais c'est pas si grave que ça. » Puis là, tout d'un coup, « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? »
Ah, ben oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, il est 2h30 du matin, je dormais. Ouais.
OK, fait que c'est une entrée à la matière.
Ouais. Je sais pas,
tentative mais... Mais là, ça pourrait pas être juste « Hey, salut, ça va?
Ouais. »
Regarde ton profil.
Pascal vient de me montrer un liker en série, là.
C'était tôt, ça?
C'était tôt,
c'était pas d'ennui, mais c'était tôt.
C'était pour l'éveil matinal.
C'était un gros lundi matin où il était pas couché. Là. Il s'était pas couché encore.
Un capitaine bandé?
Je sais pas.
Un Morning Wood?
Je peux pas.
What's the story, Morning Glory?
Il est allé loin sur les photos Instagram. Mais tu sais, c'est pas... Les gars, honnêtement, faites pas ça.
Non, puis mon dernier réflexe, là, ce serait, exemple, je vois une fille à télé, ce serait de lui écrire parce que je me dis, d'après moi, je suis pas le premier pinceau à vouloir y écrire.
Ça se peut, hein? Ça se peut, hein?
À la télé ou pas, là?
Ouais. J'ai compris ça quand les policiers sont venus me voir pour Monica Bellucci. Ils ont dit « Monica Bellucci, interdiction de l'approcher.
Ouais. »
Mais moi, récemment, je me suis fait approcher par la gérante de John Mayer sur Instagram.
Oui!
T'as failli répondre. M'ont pris par les sentiments quand même. Là.
Ouais, là, il tentait de t'arnaquer.
C'est juste bizarre, quand j'ai cliqué sur son profil, il ne la suivait pas, puis elle avait 6 nouvelles photos postées en 48 heures.
Ce qui est incroyable, c'est que t'as quand même vérifié si c'était vrai l'histoire.
Oh oui!
Oh, y'a les principes, hein, une fois de temps en temps.
C'était pour la job, là. Je regardais, c'était qu'à fraudeuse.
Denis, comment tu te sens?
En général?
Non. Comment tu te sens quand tu t'aperçois qu'on va être les seuls au Canada à payer notre essence 20 cents plus cher?
Ben, si c'est ça, la souveraineté, fuck off. Ça, je trouve ça tellement ridicule. Puis le culot de ce gouvernement-là de continuer à faire ces maudits sourires niaiseux. Puis, ah, nous autres, on n'est pas en élection, on est des gens de principe. Fait que continuez de payer votre essence plus cher, gang de plouc.
Ouais.
Je sais pas. C'est peut-être notre désintérêt de la politique qui fait qu'on a les politiciens qu'on mérite, mais je pense que même en se désintéressant de la politique, on mérite pas autant de mépris.
Tu sais, de voir que partout au Canada, il y a un genre de Vincennes qui va partir du litre parce que c'est l'abolition de la taxe carbone.
Puis oui, c'est électoraliste, là.
Ben oui,
mais les
ben oui.
seules choses, les seuls moyens qu'on a, nous autres, d'envie d'avoir des affaires qu'on veut ou d'avoir des breaks, c'est l'électoralisme.
Ouais.
Un aréna a été bâti par l'électoralisme ici, un aréna tout neuf. L'électoralisme au fédéral, au provincial, puis au municipal. Ça a été en tempête parfaite, il y avait 3 élections à gagner. Ils ont tous dit oui. C'est la seule façon qu'on a d'avoir des breaks. C'est les élections aux 4 ans.
Nous, c'est un puits sans fond d'argent qu'on envoie dans le fameux fonds vert qui sert pas toujours à bon escient.
C'est pas clair. Hein?
On était dans une autre vie radio à cette époque-là, Denis, mais on avait sorti le dossier des gorilles au Gabon qui avaient eu une clôture électrifiée payée par le fameux fonds vert québécois.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, on les aime bien gorilles, là, mais la clôture, tout le monde s'en contre-crisse ici au Québec. Puis de savoir que mon argent que je paye, le surplus d'argent que je paye du litre d'essence avait servi à ça, ça me tue complètement. Je regardais un article, puis je veux pas cibler le journaliste, là, mais tu l'as peut-être vu, sinon je t'enverrai l'article. C'est un journaliste, lui, qui est carrément sur la frontière entre l'Ontario et le Québec. Il est à Gatineau.
Celui qui a dit fièrement qu'il irait pas gazer à Toronto, là?
À Ottawa.
Ouais, excuse-moi.
Fait que lui, là, il est à 2 minutes de l'Ontario, là. Mais il va continuer à payer le 20 cents de plus au Québec parce que ça va, dans le fond, va. C'est... Tant aussi longtemps qu'on va avoir des imbéciles comme ça, comme journalistes, là, je veux dire, on s'en sortira jamais.
C'est vouloir se tirer un rang alors que n'importe qui, présentement, qui tire le diable par la queue, n'a pas les moyens. Même les gens remplis de bonne volonté puis plein de belles valeurs. Come on. Come on. T'as 20 cents, 25 cents, 28 cents de différence à 500 mètres. Il y a des gens qui font un fil 1h30 au Costco pour 10 cents. Là. C'est, ça, c'est la vraie vie. Là. Ça, c'est la réalité du monde. Là.
Exact.
Il est bien payé, ce journaliste-là?
Je sais pas. Mais
ben, sûrement.
Je souhaite juste... Tu sais quoi? Je vais le respecter à partir du moment où il l'écrit puis il le fait pour le vrai.
Mm-hmm. Tu penses qu'il le fait pas pour de vrai?
Non.
Tu penses que c'est du bluff?
Ben oui. Mmh. À un moment donné, sa blonde va peut-être se dire, regarde, on va sauver sur 80, mettons sur 100, sur 90 litres, on va sauver peut-être 14, 15, 16 piastres. On est aussi bien de faire.
Je pense que c'est l'histoire.
Le 2 minutes. Ben, moi, je pense que c'est de se tirer un rang, tout simplement.
C'est peut-être sa blonde qui gère le portefeuille et dit, hey, chérie, je vais aller, t'inquiète, char. Tu vas aller à Gatineau, là? Oui, oui. Oui, oui.
Sa blonde est peut-être docteur. Lui, il était à pige. Mais je trouve ça hallucinant que ce genre de papier-là s'écrive encore. Moi, tu sais quoi? Je vais être très honnête avec vous autres. Je gagne quand même bien ma vie. Je suis heureux, je travaille fort. J'ai 2-3 emplois dans ma vie. Si j'avais la chance de rester sur la frontière Québec-Ontario, puis la station-service est à 500 mètres, puis c'est 20 cents de moins, tu peux être sûr que je fais le 500 mètres.
Puis même si tu le faisais pas, tu ferais pas un pli sa différence parce que 99% du monde autour de toi irait tanker au moins cher.
Exact.
Tu sais, c'est de la fausse bonne valeur. Je suis le citoyen modèle. Je fais les bonnes choses parce que moi, mes valeurs sont à la bonne place. Moi, je fais avancer la planète. Grâce à moi, on est un petit peu plus progressiste. Grâce à moi, la planète
moins
vit un peu mieux.
Que le gars fasse juste des...
Mon Dieu. Ah, que ça me fait chier! Bah,
ça serait moins compliqué de faire un don.
Mais tu sais quoi? C'est plus pertinent à mes yeux que ce qu'il y a écrit sur le papier aujourd'hui.
Un don à une organisation, à un organisme visé selon ses valeurs qui prône un genre d'action X.
Plutôt que de laisser un fonds vert à des politiciens qui vont profiter de ce fonds-là pour faire avancer leurs patentes ou donner des montants d'argent à des gens qui veulent faire un enclos à Gorée au Gabon, faire un don personnel très ciblé
avec
à des choses qui correspondent à tes valeurs, je trouve ça parfait.
J'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui va faire quelque chose de constructif à la société en toute discrétion que quelqu'un qui va le faire pour écrire 3 textes là-dessus pour s'élever au-dessus des autres. Moi, c'est pas le geste, c'est la façon, c'est la démonstration.
Pour toi, ça parle de la personne, cette personne-là, t'aimes pas beaucoup ses comportements.
J'aimerais prendre le pit stop en otage pour te dire que j'ai donné 20$ à la bouchée généreuse.
Ah.
J'ai pris 20$ dans mon portefeuille ce matin, puis
c'est
je me suis dit... Il faut que tu fasses ton bout de chemin. T'es un citoyen modèle, toi,
Gravel. T'es pas allé au Tim Hortons ce matin? Tu t'es sacrifié pour ça?
J'ai sauvé 4 grands cafés, là. j'ai décidé de donner parce que je suis comme ça.
Ouais.
Puis je le fais pour être humble. Hein? Je le fais pas pour avoir un spotlight sur la place publique puis me tirer un rang dans la confrérie des médias. Non, je le fais pour les petits pauvres.
Puis tu penses de quoi des gens qui le font pas, Denis?
Ceux qui le font pas?
Ouais.
Écoute, ça leur appartient. Hein? Je sais pas comment ce qu'ils font pour dormir le soir présentement et de quoi ils parlent le jour pour se rendre intéressant s'ils font pas des choses comme ça alors que moi, je peux le faire. Parce que moi.
Ouais. Hey, j'aime bien parler des affaires qui nous touchent de très près. Là.
J'aime parler des affaires qui me touchent,
oui,
moi.
Oui, ouais. Moi. J'aime parler des affaires qui nous touchent de très près et je m'inclus là-dedans. Les amis, je sais pas s'il y a des gens du MTQ qui nous écoutent, là, mais le pont La Porte est sur le fer à certains endroits. La fameuse gaine là, protectrice qu'on avait posée il y a de ça quelques années là, est bleue.
La gaine tient plus.
Pour ceux qui ne le savent pas, là, est bleue puis est percée. On voit le fer au travers du pont Pierre-Laporte. Si vous êtes sur la rive nord puis vous allez directement sur la rive sud, à 6 endroits à peu près, on voit le fer. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, mais si on met du sel là-dessus, si on met de l'eau, s'il y a du métal, d'après moi, ça devrait...
c'est pas l'idéal.
On me dit corrosion, quelque chose du genre.
Mauvaise recette. Hein?
Mais pourquoi il n'y a pas personne qui s'est déplacé cette nuit là, pour remettre de l'asphalte froide là-dessus ou juste refaire la petite couche manquante là, pour justement pas exposer le fer comme ça à l'eau? Je ne comprends pas, puis ça fait déjà plusieurs jours que c'est comme ça. Tu l'as-tu vu?
J'ai pas vu les images.
Tu vois l'asphalte, il y a un trou. Après ça, tu vois l'épaisseur de l'asphalte qui n'est pas très grosse parce que c'est un pont, donc nécessairement une capacité de charge. Après ça, tu vois la fameuse membrane qu'ils ont posée qui est bleue turquoise. Puis après ça, tu vois le fer.
C'est pas rassurant dans cet état des choses-là de savoir que le gouvernement a juste décidé de prendre la phase 2 de la réparation de la tête des ponts puis la sacrer au vidange. On invoque la raison des tarifs de Donald Trump. Ils ont le dos large, les tarifs à Trump, là, si tu me demandes mon avis. Là. Mais ça fait partie des 10 grands projets que le ministère des Transports a comme sacré aux oubliettes. Le Journal de Québec qui a fait du bon travail là-dessus. On a commencé par trouver le fait que toutes les voies réservées qu'on voulait développer à Québec dans les prochaines années, ça avait pris le bord. Et là, on a constaté qu'à Montréal aussi, ces projets-là avaient pris le bord. Puis finalement, on a réussi à faire la liste d'une dizaine de grands projets comme ça qui sont disparus des programmes d'investissement du ministère des Transports. Et parmi ces programmes-là, il y a la phase 2 de la tête des ponts. Spécifiquement, la phase 2, c'est quoi? C'est refaire les tabliers. C'est quand même relativement important dans la situation actuelle.
Et dans les dernières années, il n'arrêtait pas de se défendre et de prôner qu'il était correct, puis on allait être correct. Comment est-ce que tu te défends maintenant? De juste dire que c'est physique, que c'est superficiel? Hey, le monde va s'éclater les pneus là-dessus. Là.
Moi, ce que je trouve drôle, c'est quand tu fais ton budget, les tarifs, tu les mets à 10 %, c'est pas grave, puis tu souris. Mais quand vient le temps de faire les coupures, là, soudainement, les tarifs sont à 25 puis ils partiront jamais. T'sais. Bref.
Mais c'est ça, l'état du réseau routier dans la grande région de Québec, là, c'est triste à voir. Des roulières qui se sont installées, qui sont extrêmement dangereuses.
Laurentien Nord, c'est terrible.
Dans des situations de pluie, puis ça fait pas tant d'années que ça que c'est fait, Laurentien Nord.
On a vécu la même chose il y a quelques années avec la capitale. Ils ont fini de la faire, puis 6 mois plus tard,
les roulières
étaient tellement creuses qu'il a fallu recommencer à travailler.
Quelqu'un qui nous écrit, il y a une période de dégel en ce moment, probablement qu'on met pas d'asphalte, parce que bon, c'est pas la période, c'est pas le moment.
Tant que c'est pas fini, tant qu'il y a encore du gel puis du dégel, tout ce qu'ils vont mettre, c'est de la roche. Là.
Mais la question se pose quand même sur pourquoi ça t'offre pas aussi longtemps. C'est tellement court, le délai viable de la route.
T'sais. Mais quand j'avais 14 ans, je travaillais chez Ronald McDonald, je faisais des chiffres sur la rue Saint-Jean, je faisais des chiffres sur le boulevard Hamel. Puis quand il y avait des nids de poules, Mario m'envoyait chercher chez Canadian Tire de l'asphalte froide.
Ouais.
Puis je partais avec ma poche d'asphalte froide, puis j'arrivais chez Ronald McDonald, je prenais ma pelle. Je mettais ça dans... Non, je travaillais chez Ronald McDonald.
L'homme à te faire.
Je mettais ça dans les nids de poules du stationnement.
Ah, du stationnement.
Je bouchais ça, je tapais ça, puis là, avec mon char, j'avançais, je reculais.
Ton char à 14 ans?
Puis là, ça t'a fait... Je prenais le char à Mario.
Ah oui, c'est ça.
Puis là, ça restait là pendant 3-4 semaines. Puis après ça, ben, c'était à refaire. Mais là, je vois...
Mais tu compensais pour le moment.
Je vois le métal directement sur le pont, la porte. Puis il n'y a pas personne qui procède à une réparation d'urgence. Denis parle de Laurentienne. On a la même chose dans le secteur de l'autoroute Henri IV, là, donc route des Braves. Il y a des roulières, il y a des endroits où il manque carrément de l'asphalte, puis on laisse ça comme ça. Je comprends la période dégel, gel, dégel. Puis tu sais, on met souvent
ça. On a plus qu'avant.
On met souvent ça le dos. On met ça souvent sur le dos des camionneurs. Mais quand tu regardes l'empattement là, des camions versus les roulières, ça ne fit pas. C'est trop grand.
Si ça avait été les camionneurs,
c'est vraiment
ou
les véhicules.
Le flot de véhicules, le nombre de véhicules.
Qui passent puis qui aplatissent la
Mais même si ça avait été les camionneurs, ça serait un problème quand même. T'sais, dans le sens où tu peux pas dire, tassez-vous les camionneurs, vous êtes sur la route. Le problème appartient au MTQ, que ça roule bien et qu'il y a des belles routes.
Le problème de base, c'est comment on répare et comment on développe au Québec. Au lieu d'installer une route pour 10 ans ou 15 ans puis de la faire comme faut, on la fait petit budget aux 4 ans. Comme ça, ça permet à un gouvernement de tout le temps pitcher le singe par en avant au prochain mandat ou au prochain gouvernement sans trop dépenser. Et le ministère des Transports est bien content parce que le monde travaille non-stop. Il y a tout le temps de l'ouvrage, ils sont tout le temps ces routes.
Mais on en parle tout le temps, puis on dirait qu'il n'y a rien qui se règle. Puis tu sais, je veux dire...
Tout le monde est content, sauf les automobilistes, évidemment.
Mais les finances perdues là-dedans, puis tu sais, en fait, semaine, je fais une parenthèse, moi, j'osais avec quelqu'un qui a peut-être travaillé au gouvernement à un moment donné, puis il a été payé en double pendant X nombre de mois. La paie est rentrée 2 fois. La personne appelait en disant « Hey, vous me double payez, là, en ce moment. » Puis, pendant des mois, la personne a dit, parce qu'elle est honnête, que... Puis, à un moment donné, ils ont juste fait « Ouais, on va aller la chercher sur une de tes payes. » Puis, ça s'est jamais fait.
Tu me l'avais raconté, cette histoire-là.
Ça, c'est hors d'onde. Okay,
ouais. Ça arrive tout le temps au même.
Ça, c'est un détail.
Ça m'arrive jamais à
moi,
mais
ça. Pareil, c'est l'argent des contribuables. Tu sais, je veux dire, au privé, là, quand toi, ta paye est allée dans le compte à Véro, ce que ça a fait, c'est de la bisbille, OK? C'est une chose. Mais là, c'est
ça a fait qu'une personne d'un deux s'est rendu compte qu'il avait pour ça la bonne paye.
C'est déjà arrivé à Véronique Bergeron, ça.
Ben oui.
Mais c'est ça qu'on vient de dire.
OK, c'est beau.
Nos premières payes ici ont été interchangées. Elle a reçu ma paye, puis j'ai reçu sa paye. Elle s'en est rendue compte tout de suite.
Es-tu allé négocier après?
Moi, j'aurais tellement dépensé la balance, Denis, puis j'aurais dit, pour ces belles années de service que je t'ai offert, voici mon boni.
C'était arrivé à mon prof de musique à l'école Samuel de Champlain. C'était en secondaire 1. Comment elle s'appelait? Céline Dion. C'est le nom que tu veux pas avoir.
Ben non, hein?
Elle avait ce nom-là, puis dans les premiers premières annonces de Céline Dion pour des marques de voitures, elle avait reçu, parce qu'elle était dans l'Union des artistes, elle aussi, c'était une prof de musique, mais...
Elle avait reçu des royautés.
Elle avait reçu l'argent de la publicité chez elle, parce que la personne a regardé le nom dans le bottin des artistes, ils ont vu Céline Dion, ils ont dit « Ah, c'est ça son adresse, on va y envoyer ». Fait qu'elle avait reçu le chèque de la vraie Céline
Combien?
Dion. Combien? Elle nous l'a jamais dit.
Okay. Puis elle l'a fait encaisser.
As-tu une coupe de disque d'or de Younesson aussi?
mais moi, je reçois
René,
ça.
René, es-tu rendu chez elle?
Mais moi, je reçois ça, là. Mettons, je sais pas, moi, je reçois le chèque, là. Je te colle ça en crypto-monnaie, puis garde. Essaye de venir me rechercher après.
Ah non, moi, je serais pas capable.
L'argent, est autour de vous.
Maudite personnalité plate, pas rapace. Mais ça, pour dire que c'est des fonds qui ont été perdus. Combien d'employés gouvernementaux c'est arrivé, ça étant une affaire, mais aussi combien d'argent on paye dans cette façon de faire-là sur les routes. Mais le budget après en santé ou je sais pas quoi, puis on va en changer des trucs. Là.
Mais pour nos routes, pour nos infrastructures, je pense qu'on a de bons ingénieurs qui travaillent sur la qualité des produits et tout ça. Mais à un moment donné, la politique du plus bas soumissionnaire, va falloir la revoir, puis on est encore là-dedans. Puis je me souviens d'un François Legault qui avait le cul assis dans une chaise pendant une entrevue, puis avait dit « Oui, j'ai moi-même chargé François Bonnardel de regarder ça, la politique du plus bas soumissionnaire. » Et encore à ce jour, c'est la politique du plus bas soumissionnaire qui font nos infrastructures, puis ça donne ce que ça donne.
Ouais.
Je me souviens pas d'avoir vu ça autant magané à Québec. À Montréal, c'est normal, ça a l'air d'un champ de mine, là. C'est comme la Bosnie-Herzégovine après le bombardement. Mais ici, c'était pas si pire que ça avant.
Ouais, là, ça mange une claque, puis c'est sur le réseau routier au grand complet. Ça a l'air qu'on est encore capable de réparer au fur et à mesure, là. Pour ceux qui signalent les trous, on avait posé la question dans le retour la semaine passée, puis ceux qui signalent, là, dans la semaine, là, il y a du patchage qui se fait. En passant, s'il y a vraiment des trous dangereux dans votre bout, là, stoulez-les à la ville, puis ils vont faire le job.
J'ai vu l'appareil de la ville, là, directement ici, en face de la station. C'est intéressant, là. Je sais pas si tu l'as vu. Là.
La
c'est
grosse machine?
Un bras mécanique. Là. Puis là, ça a l'air d'un genre de... C'est de l'asphalte sèche, là, d'après moi. Ça doit pas être l'asphalte chaude. Mais ça passe directement dans un tuyau. Puis après ça, ça l'aplatit. Puis le trou est comblé. Là.
Nice.
Je sais pas si c'est bon très longtemps. Mais du moins, ça fait la job pour quelques jours. Hey, garde les tarifs. T'as-tu embarqué là-dedans, Denis?
Ben, qu'est-ce que je peux faire? Acheter québécois? Me désabonner de Netflix? Est-ce qu'on a évolué à ce niveau-là? Est-ce qu'on a avancé? À part les subir, là, les Moses de tarifs, là.
J'ai regardé l'article de David Descoteaux que j'aime bien. Là. Il a écrit plusieurs livres intéressants, David. Puis il mentionne que les tarifs qui rentrent en vigueur, ils vont rentrer en vigueur jusqu'à temps que Trump change d'idée.
Mm-hmm.
Je pense qu'effectivement, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, Trump va probablement changer d'idée. Parce que tous les experts autour de lui puis tous les experts au Canada mentionnent que c'est une des pires choses à faire pour les États-Unis.
Exact.
J'imagine qu'il y a une grosse pression autour de lui, mais il veut quand même y aller avec des tarifs généraux de 25 %.
Déjà, le discours a changé. Je veux dire, les premières réactions de Trump suite à un appel avec Mark Carney, que ça fasse partie d'une pièce de théâtre ou pas, on est redevenu un pays et le gouverneur est redevenu premier ministre. Tu sais, il y a des termes et des façons de s'exprimer qui ont changé puis qui peuvent faire en sorte qu'on puisse espérer, nous autres, faire partie du cirque moins longtemps que d'autres. Là.
Donc, sauf que j'espère quand même que ce n'est pas une stratégie électorale pour faire élire, mettons, son cheval, parce que ça amène beaucoup de problématiques en démocratie.
Qu'est-ce que je disais tantôt? La seule façon d'avoir des breaks, c'est d'avoir des élections. Ça boucle la boucle.
Donc, 25 % sur l'acier et l'aluminium. tarifs sur le bois d'œuvre aussi. En août dernier, le département du commerce des États-Unis qui a augmenté les droits de douane sur la plupart des produits de bois d'œuvre résineux canadiens, les faisant passer de 8 % à environ 14,5. Trump a aussi menacé de doubler encore une fois le taux anti-dumping, ce qui porterait le taux global des droits à environ 27 % pour ce qui est du bois d'œuvre. C'est majeur, ça. Il va probablement y avoir des pertes d'emplois dans cette industrie-là aussi. 25 % sur les voitures et les automobiles, les pièces automobiles. Ça, c'est l'Ontario qui va payer extrêmement cher cette taxe-là.
Ça pourrait être plus que des dizaines de milliers d'emplois perdus à la fin de l'année si jamais on perdure avec ces tarifs-là. Là. C'est l'industrie automobile canadienne au complet là, qui peut virer sur le top.
Ouais. Les tarifs équivalents, ça, on ne l'avait pas entendu tant que ça, mais au Canada, si tu achètes des trucs des États-Unis, il y a des tarifs à payer aux douanes, donc des taxes. Donald Trump a averti qu'il imposerait des droits de douane réciproques, soit la valeur équivalente à ses partenaires commerciaux, dont le Canada. Toutefois, on ne sait pas encore comment les tarifs réciproques vont être calculés ou mis en œuvre, mais ça, c'est à venir. C'est demain que ça devrait être annoncé. Tarifs aussi sur les pharma, tout ce qui provient du Canada, des pharmaceutiques canadiennes qui s'en vont vers les États-Unis, il y aura des tarifs appliqués jusqu'à temps que Trump décide de changer d'idée.
Mais on n'a pas eu beaucoup de solutions ou d'images solutionnaires de notre côté. Par exemple, je trouve ça triste, hein, tu vois, le Japon est un peu impacté par ça aussi. Puis de leur côté, ils ont créé des guichets de consultation. C'est pour aider les entreprises. Là. Il y a des efforts pour obtenir une exemption de certaines choses, pour pas que ça ait un trop gros impact chez les entrepreneurs puis les entreprises d'ici. Il y a peu, je trouve, de solutions qui sont amenées ou de propositions, que ce soit fiscales ou aidantes, qui sont appliquées et applicables sur nos entrepreneurs.
J'ai le feeling que les politiciens ont juste callé le bluff. Ils ne croient pas encore que
tu
ça va arriver.
Là-dedans?
Moi, je pense qu'on se dit à la dernière minute ou à la dernière seconde, là, la journée de la libération, là, on va débarquer de là, nous autres, le Canada. Puis, regarde, j'espère qu'ils ont raison parce que sans ça, on perd précieuses semaines de préparation.
J'espère quand même qu'ils, pendant ce temps-là, ils s'assurent de travailler sur des solutions que si c'est pas du bluff, ils soient prêts. T'sais.
Tu m'as envoyé une vidéo, c'est quoi exactement?
Ça me fait bien rire. Moi, c'est le Parti québécois qui a publié ça pour comparer Legault à Jean Charest. Dans le temps, Legault, on l'avait comparé à Jean Charest puis il avait été en beau maudit. Puis ils ont trouvé certaines archives intéressantes.
On va essayer de te mettre ça à l'instant. Voilà.
Traiter de Jean Charest. Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire traiter de Jean Charest?
Moi, je vais laisser à la commission faire son travail.
Laissons la commission faire son travail.
Monsieur Pratt, dans le journal La Presse.
Moi, je vais lui citer La Presse.
Pour se donner les moyens, justement, pour faire la lumière.
La commission va faire toute la lumière.
Ça prend des moyens très importants pour aller au fond des choses.
Nous, on va aller au fond des choses. C'est de Jean Charest.
C'est très bon.
Pas de Jean Charest.
C'est très, très bon.
C'est la politique que j'aime. Moi, quand tu viens qu'à essayer d'attaquer, mettons, un autre parti ou autre, c'est une chose. Mais quand tu vas y avec l'intelligence, là, vous comprenez, c'est dans des contextes différents. Mais pareil, je veux dire, c'est des lignes politiques que l'on entend et que l'on entend. On se rend compte que tout le monde est pollué.
Le gouvernement différent de la CAQ est exactement pareil au gouvernement d'avant. Faut que le PQ fasse attention, par exemple, parce qu'on pourrait aller chercher... Je comprends qu'elle n'a pas été là longtemps, là, mais on pourrait aller chercher des lignes de Pauline Marois qui seraient identiques à celles de Legault et identiques à celles de Charest. Plus ça change, plus c'est la même chose.
Exact. As-tu entendu parler du projet de loi 85 qui pourrait te permettre de donner à tous les soirs d'aller magasiner aux galeries de la capitale? Ça inclut le samedi et le dimanche aussi. On veut modifier les heures d'ouverture.
Ce que je trouve particulier, c'est que le gouvernement régisse ça. La clientèle devrait avoir le dernier mot. Moi, je suis pas un gars de soir. Moi, ça me touche pas pantoute. Moi, j'aime ça magasiner le matin, puis je trouve que les épiceries ouvrent trop tard.
Parce que tu travailles le soir.
Ben exact. Ouais.
Puis il y a deux enfants qui se lèvent tôt.
C'est ça. Puis je suis un gars de matin, fondamentalement. Là. Mais s'il y a juste un gars, s'il y a juste un Gravel qui veut aller chercher son croton le matin à l'épicerie, là, ben l'épicerie, c'est normal qu'elle soit fermée. Par contre, s'il y a plein de gens à Québec qui ont un besoin d'aller aux galeries de la capitale le samedi soir, puis qui ont un besoin, puis que ça fait rouler l'économie, c'est pas au gouvernement de caler ces shots-là, c'est aux galeries de la capitale eux-mêmes.
Entièrement d'accord, je te suis. Dans le temps, on avait mis les lois parce qu'on voulait sauver les petits détaillants. Tu sais, exemple, là, métro qui voulait ouvrir le dimanche à pleine capacité avec tous les employés possibles sur le plancher. On disait, ouais, mais c'est parce que là, le petit dépanneur, lui, il va crever de faim. Fait qu'il faut les aider. Puis on était intervenu en disant à métro, exemple, ben tu dois avoir pas plus que 4 employés après 18 heures.
Ce qui faisait. Ah, puis même avant ça, à un moment donné, c'était pour tout le dimanche. Puis il y avait des files de 40-50 personnes parce que les épiciers étaient débordés.
Là, ça a tombé. Oui. Là, ils se disent, ce qu'on veut, c'est tout changer ça. Fait que Walmart, techniquement, il pourrait être 24 heures.
Pourquoi pas?
Why not?
Ouais, mais la pénurie de main-d'œuvre, les employés, ben il n'y en a pas.
Mais il peut y avoir une pénurie de main-d'œuvre, mais si Walmart dit, nous autres, on veut ouvrir, parce qu'on juge qu'on est au centre-ville de Montréal, exemple, puis on juge qu'on va être capable de faire notre argent avec les gens du chiffre de soir, puis les chiffres de nuit, puis l'achalandage,
mais ça peut pas être partout, tu sais, on voit, mettons, les restaurants ici, là, 24 heures dans le temps, McDo, on y pensait même pas, on allait au McDo à n'importe quelle heure.
La tendance est inverse, ici, présentement, dans les fast-food, puis dans les trucs de restauration, parce qu'effectivement, t'avais plein de 24 heures. Là, tu sors d'une game ou d'un concert au centre Vidéotron, puis tu vas courir après ta poutine longtemps. Là.
Exact.
Alors qu'avant, c'était le premier pit stop ou le deuxième ou le troisième, tout était ouvert, puis il y avait des fils partout.
Aucune question.
Ouais,
mais hey, le Ashton là, sur Bouvier, là, après, mettons, être sorti d'un bar, puis le conducteur désigné amenait là, je veux dire, c'était un deuxième party. Ben, l'after était au Ashton.
Mais ce serait au commerce
de
décider quand est-ce qu'il ouvre, puis quand est-ce qu'il ferme, selon les besoins puis les demandes de la clientèle. That's it, that's all.
Ouais, puis tu sais, aux galeries, là, je prends les Galerie de la Capitale, là, j'aurais pu prendre Place Laurier. Mais aux Galeries de la Capitale, s'ils veulent rester ouverts le samedi puis faire des événements éphémères,
ben oui,
peuvent le faire. Avec le projet de loi 85, ils vont pouvoir le faire. T'sais, une nuit dans un centre d'achat, dans l'air des jeux avec les enfants et tout ça, la nuit blanche des Galeries de la Capitale, ça serait complètement fou. Va faire du patin, va passer la soirée là. Faire le genre de... Toi, t'as-tu connu ça, Pascal, la roulatec?
Non, mais mes parents se sont rencontrés, là.
Avec des patins à roues alignées?
Nous autres, au Saguenay, c'était la grosse machine! Puis c'est là que le monde allait patiner, oui.
Mais
oui,
tu fais des événements éphémères comme ça, je suis persuadé que c'est le genre de choses qui pourrait attirer une clientèle.
C'est hot parce que les centres commerciaux sont condamnés à se réinventer. Là, on voit des grandes surfaces qui ont fermé définitivement. Les besoins du consommateur ont changé. Est-ce que c'est justement avec ce genre de thématique-là ou d'événements là, que tu peux ramener de la clientèle supplémentaire d'un centre d'achat? Peut-être.
Ça vaut ça assez la peine? Ils vont aller magasiner des boutiques?
C'est à eux autres de le dire puis de le trouver.
C'est à eux autres qui vont le déterminer.
Ouais, ben ouais.
Ou bien faire des ventes spéciales, la vente spéciale de nuit, là, tu sais, à 21h.
Moi, je veux pas voir du monde à 21h en vente spéciale de nuit, là.
Non, mais à 21h, là, tout devient à 50% ben de rabais. Ah. Les restaurants sont ouverts en haut, les machines à boules sont... Les machines à boules.
Les jeux vidéo, c'est ouvert. T'es resté à roulatec, quoi, là.
Hey, à roulatec, c'était capoté parce que tu tournais en rond là, avec les patins. Après ça, tu pouvais aller danser des slows dans un petit endroit. La roulatec, c'était à Saint-Pascal. Fallait que tu enlèves tes patins. Puis là, il y avait comme un endroit où tu pouvais aller danser des slows avec les filles.
C'était l'enclos à rapprochement, mettons?
Oui, exact.
Sans patins.
C'est ça. Moi, j'étais souvent là, mais il n'y avait personne qui voulait danser avec moi.
Oh, tu te spottais quand ça roulait. Après ça, tu t'étais spoté des yeux, puis tu allais dans l'enclos.
Il y avait un petit bar, là, pas d'alcool là, pour nous autres. Puis il y avait un petit bar, tu achetais ton jus, puis tu offrais un jus, puis tu espérais scorer en la fraîche.
Il n'y a plus ça pour les jeunes. Il y a quand même. Puis je suis pas sûr que garde quelqu'un qui décide d'ouvrir ça d'un matin et fait de l'argent parce que la tablette, les relations, les communications sont tellement sur le web maintenant, mais tu rouvres une affaire de même, là.
Ben, le maire Labeaume voulait rouvrir une affaire de patin à roulette à un moment donné. Je sais pas si tu t'en souviens, là. Je me souviens plus du contexte, là, mais...
Mais je trouve ça triste qu'il n'y ait plus ça. Moi, une maison des jeunes qui roulait, là, comme dans Random, là, les gens de ma génération vont catcher, là. C'était mon grand rêve, mais les maisons des jeunes, nous autres, c'était pas dans le quartier.
Il y en a encore
là.
Des maisons des jeunes. Ce que je vois aussi avec le projet de loi 85... Puis je sais pas si il était à l'encontre de la loi, c'est à Sainte-Catherine à Montréal, mais je me souviens que le lundi soir, les boutiques étaient ouvertes très tard. C'est-tu parce que les commerçants décidaient, regarde, moi, ils me disent de fermer à 5 heures, mais non, je reste ouvert jusqu'à 10 heures le soir?
Je pense que ça dépend vraiment du type de commerce. Si t'es dans un centre commercial versus si t'es sur une artère commerciale, tu vends-tu des bijoux, tu vends-tu des cafés, tu vends-tu des sundaes?
Mais on a-tu ça à Québec? Festival d'été de Québec, là, c'est à la rue Saint-Jean, là, tout le monde peut ouvrir jusqu'à 23 heures. On a tout ça?
Je pense pas. Je sais pas, en fait.
Puis pourtant, ça serait à l'avantage des commerçants.
Il me semble.
La pièce est là. Tu sais, des gros soirs où il y a des gros shows, t'ouvres ça jusqu'à tard le soir, puis merci, bonsoir.
Écoute, pendant au moins une quinzaine d'années, en sortant du festival d'été, là, tu t'en vas pas te coucher. Là, t'es galvanisé. Tu peux dépenser. Dans ce temps-là, tu peux continuer de faire rouler l'économie une coupe d'heures supplémentaire.
Peut-être pour ça, ils veulent pas avoir de plainte de gestion des dépenses connes. Ouverture sans restriction. De 8h à 21h pour le commerce de détail. Je regarde c'est quoi les lois, mettons, puis la réglementation, les permis. Mais il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute, 88-971-1021, qui est en affaires, qui est dans sa boutique actuellement, qui est capable de nous répondre. Là. Je peux pas croire. Pour un permis commercial, mettons, d'ouverture.
Mais bref, t'sais, l'idée, c'est que le gouvernement se retire de ça tout simplement, puis que ce soit aux commerçants de décider de ses heures d'ouverture. Puis si tu es dans un gros endroit comme les galeries de la capitale, puis Place Laurier, ben ça, les gestionnaires de ces gros établissements-là peuvent décider des heures d'ouverture, puis en obligeant t'sais, les détaillants qui ne veulent pas ouvrir, mettons, à 10 heures, ben excuse-moi, mais nous autres, on est ouverts à partir de 10 heures.
T'sais. Tu sais quand est-ce que le gouvernement a commencé à se mêler des heures d'ouverture et de fermeture? C'est en 1992. Est-ce que tu sais pourquoi?
Pas du tout.
Ça a l'air de t'avoir marqué?
Ben, c'est là qu'on constate que... tu sais, on pense qu'on est moderne puis tout ça au Québec. Là. En 92, le gouvernement est intervenu pour permettre d'ouvrir des commerces le dimanche.
À cause de la messe puis tout ça?
Ben voilà. Le premier projet de loi sur des heures d'ouverture de commerce, pas en 1950, en 1992... pour permettre à des commerces d'ouvrir le dimanche, même si Jésus veut pas.
Hey, ça fait 33 ans maintenant.
C'est incroyable.
Ça n'a pas de sens. 33 ans, c'est presque l'âge que j'ai.
Je savais pas. Autre article qui m'a mentionné, qui m'a impressionné ce matin, puis je voulais vous en jaser. Puis tantôt, vers 13h10, 13h20, on va avoir Frédéric Maheu, qui est un ambulancier, parle des délais épouvantables pour dépêcher une ambulance sur la rive sud. Écoute, il y a un homme de 73 ans qui a fait un arrêt du cœur, Denis. Puis son ambulance était en Basseville de Québec.
Lui était à Saint-Nicolas.
Il était à Saint-Nicolas.
Ouais.
Un arrêt du cœur. L'ambulance était en Basseville de Québec. Lui était à Saint-Nicolas, arrêt du cœur.
Il n'y avait rien d'autre de disponible.
C'est fini, c'est terminé. T'sais, heureusement, ils ont réussi à trouver une autre ambulance qui était plus près, qui a réussi à se rendre sur place parce que les ambulanciers ont dit « Garde, on va lâcher les papiers qu'on a à faire là, pour notre cas qui vient de partir, puis on va y aller directement le chercher. » Mais il y a une mauvaise couverture d'ambulance, que ce soit à Québec ou encore à Lévis. Puis ça fait des années qu'on en parle, ça se règle pas.
Trop d'histoires, puis je sais que Frédéric et plusieurs autres font des parallèles avec un décès qui est survenu en 2017 dans des circonstances similaires. Un homme qui a fait un arrêt cardiaque.
C'était un de leurs collègues.
Oui, oui. Ironiquement, c'était un ambulancier lui-même. Puis, dans le rapport de la coroner, on dit que le délai avant que les ambulances arrivent a probablement joué pour beaucoup.
T'sais, on aurait besoin peut-être d'une quinzaine d'ambulances supplémentaires sur le territoire de la ville de Québec. Il y a environ 25 à 27 équipes d'ambulanciers qui patrouillent partout dans le secteur en même temps chaque jour. Puis je t'ai montré des images vidéo là, que les ambulanciers nous envoyaient il y a de ça quelques semaines. Les ambulances sont en file d'attente pour que les patients soient pris en charge à l'hôpital. L'ambulancier ne peut pas quitter le patient, même si c'est pour, je sais pas moi, une jambe cassée. L'ambulancier ne peut pas quitter le patient tant aussi longtemps que l'hôpital ne prend pas en charge le dit patient. Fait que des fois, ça peut, t'sais, une jambe cassée, c'est pas prioritaire. Là. Fait que ça peut prendre 2 heures où les deux ambulanciers sont dans le char en attendant que les autres ambulances passent.
Puis entre toi et moi, la jambe reste cassée. Là. Un coup que t'as donné des Tylenol, là, tu peux plus faire grand-chose.
Il l'a stabilisé. Il a probablement donné des médicaments pour que ça fasse peut-être un peu moins mal. Donc, on va jaser de solutions avec Frédéric Maheu, mais ça fait des années qu'on parle de ça. Puis je me souviens de Gaétan Barrette, le gros Barrette, qui parlait justement de ce qui s'était passé à Lévis avec un des collègues ambulanciers qui est malheureusement décédé en raison de la mauvaise desserte. Il avait dit « On ne commencera pas à mettre à Lévis un ambulancier dans chaque rang. »
Mais c'est tellement stupide
Quel
comme réponse.
Imbécile.
Mais là, c'est parce qu'on a eu un rapport du coroner. Moi, je termine là-dessus, là, mais quand tu as eu un rapport du coroner avec des recommandations puis ça ne bouge pas, quelle solution tu veux aller chercher? On a touché le bout.
Ben là,
on l'a touché la fin du rang dans le cul-de-sac. Là.
Mais ça, c'était en 2017. On est rendu en 2025. Hey. On a exactement les mêmes problèmes.
Et qui amplifient.
Oui, exact.
Deux filles qui sont ambulancières sont dans leur break. Juste ici à côté, dans le Bourgneuf, là, mettons à hauteur du McDo, sont ici, sont dans leur break, puis ils se font caler pour un arrêt du cœur à l'extrémité est de l'île d'Orléans. Arrêt du cœur. Ils savent qu'en arrivant, le gars va être mort.
Ben, c'est une run, hein?
Moi, être ambulancière, là, ce serait vraiment difficile de continuer mon métier.
Ben, ils en perdent beaucoup.
Parce que t'es là pour sauver du monde.
Ils en perdent beaucoup dans les 10 premières années, d'ailleurs, à cause de ça.
Puis c'est pas toi qui sauve pas le monde. Mm. C'est l'administration qui les tue, rendu là.
Mm-hmm. Exact. Puis on 50% des impôts, plus de 50% des impôts qu'on envoie au Québec s'en vont directement à la santé. Puis selon le gouvernement, c'est pas encore assez. On va-tu s'en sortir un jour? On va se le souhaiter. Midi 37, Denis Gravel, on t'écoute dans le retour tantôt, 14h.
Yes, à tantôt.
Salut, bye-bye. Rage against.